RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonjour, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et sur RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors dans cette deuxième partie, nous recevrons Boris Vallaud, député Nouvelle Gauche des Landes. Mais notre premier invité ce soir est Gaspard Ganzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là Gaspard.
Merci à vous.
Ancien conseiller communication de François Hollande à l'Élysée. Vous venez de publier chez Fayard « La politique est un sport de combat ». À vous lire, on est épuisé, lessivé, un peu comme vous. Quand vous quittez ce job, vous l'écrivez dans l'avant-propos, vous avez vécu tous les drames et les périls, les tragédies de la nation avec bien sûr les attentats, les interventions militaires au Mali, les scandales politiques avec Cahuzac, les scandales personnels avec l'affaire Julie Gayet et Trier-Villers, le pilonnage des frondeurs et l'assaut final avec la montée en puissance d'Emmanuel Macron et bien sûr votre patron qui prend son ultime décision, celle de ne pas se représenter à la présidentielle. Donc c'est écrit comme un journal, c'est vif, c'est rapide, c'est comme vous, c'est nerveux, et ça se lit comme un roman politique. Tout ce que vous écrivez, est-ce que ça ne devait pas, dans le fond, rester secret ? Est-ce que vous n'êtes pas dans la continuité, s'il y a une petite critique à faire, dans la continuité de la présidence bavarde que dénonçait Emmanuel Macron à propos de la présidence de François Hollande, de votre ancien patron ?
Je ne le pense pas, parce que je pense que ce que j'ai voulu faire, en tout cas moi, c'est témoigner, donner ma version de l'histoire. Je n'ai trahi aucun secret, j'ai pas touché aux secrets défense, aux affaires diplomatiques, parce que ça concerne la sécurité nationale, la défense de notre pays. En revanche...
Mais ça appartient au quinquennat,
bien sûr,
à l'histoire du quinquennat.
J'ai voulu raconter une histoire d'hommes et de femmes politiques qui se sont affrontés, combattus, parfois pour des idées, parfois pour des questions d'ego. Et je trouve que parfois, la lumière n'a pas été mise au bon endroit pendant le quinquennat, et que moi j'ai essayé d'expliquer ma version d'histoire. Je ne prétends pas à l'objectivité, je prétends à toute ma subjectivité, et je ne suis pas très original là-dedans, parce que je ne suis pas le premier à le faire et j'imagine aussi pas le dernier.
Oui, parce que j'imagine si tous les conseillers... Et vous n'êtes pas le premier, puisque ni le dernier d'ailleurs, puisque un autre conseiller de François Hollande, Vincent Foltès, a aussi écrit un livre.
Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur le pouvoir et finalement le sommet du pouvoir en France ?
J'ai beaucoup de choses, mais si je dois retenir deux choses, la première c'est une chose positive, c'est que dans les situations de crise, l'État répond toujours présent. Hier, nous étions le 13 novembre, deux ans après les attentats de 2015, et malheureusement, nous n'avions pas pu empêcher ces attentats, mais la réaction de l'exécutif à ce moment-là avait été bonne.
Il y avait eu ça, on le doit à l'homme ou à la force des institutions ?
Les deux. Je pense à la fois aux institutions, mais aussi aux hommes, en l'occurrence François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et d'autres, qui ont été impeccables dans ces moments-là pour tenir ensemble les Français. Et puis j'ai vu aussi le pire, je pense, dans l'exercice de l'État et du pouvoir, les guerres d'ego, le narcissisme, l'individualisme, les batailles au sein du camp du président, et puis parfois une incapacité que nous avons eue à jouer collectif, alors que c'était justement ce que les Français nous demandaient.
Vous avez de l'affection pour François Hollande, ça se sent, ça se lit, ça se respire presque. En revanche, vous dites qu'il a commis quelques erreurs, et on sent que vous y répondez en citant peut-être Emmanuel Macron, parce que quand vous arrivez à l'Élysée, Emmanuel Macron est là déjà en tant que
conseiller secrétaire général adjoint.
Voilà, et vous dites, ça c'est Macron qui parle, il vous dit, il est bon et a toujours le sourire, on a l'impression que les difficultés glissent sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais il a une faiblesse, il résiste mal à la pression en colloque singulier. En clair, le dernier qui parle a souvent raison. Voilà, est-ce que ce n'est pas effectivement le principal problème
de François Hollande ? Je pense que il y a un sujet d'un trait de, je ne sais pas si c'est un trait de caractère ou une façon de fonctionner, mais François Hollande, quand il est en situation de crise, réagit toujours bien dans les entrées en guerre, les attentats, etc. Après, je pense comme il a l'obsession du rassemblement et de la synthèse, il pense qu'il faut toujours chercher à mettre les gens d'accord. C'est vrai que les processus de décision peuvent durer très 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 longtemps avec lui, parce que tant qu'il n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord, il repousse le moment de la décision, notamment sur les questions économiques et sociales. Et ça, c'est vrai que c'est louable d'un point de vue démocratique, mais parfois, c'est un peu dur à supporter au quotidien.
Et ça a été dur pour vous ?
Moi, j'étais le rôle du communicant, donc c'est vrai que je venais un peu en bout de chaîne. Parfois, c'est vrai que le communicant préfère avoir des décisions tranchantes, rapides, spectaculaires. C'est plus facile à vendre que des synthèses.
C'est plus que de l'affection, c'est de l'admiration et même une assez profonde admiration que vous avez pour François Hollande. Vous dites, je vais vous citer, un grand président harcelé par ses opposants, trahi par les siens, qui n'a jamais dévié de sa route, faisant preuve d'un courage exceptionnel. Et lorsqu'il quitte l'Élysée, vous dites, alors que les applaudissements du personnel commencent à retentir, vous écrivez « J'aimerais qu'il soit plus fort encore, encore plus chaud. C'est un triomphe que mérite ce président qui nous quitte.
Non, »
Vous n'en faites pas un peu trop ?
Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, je donne ma version de l'histoire et ce que je ressens. Je pense que parfois, les ministres, les conseillers disent pas ce qu'ils ressentent. Moi, j'ai essayé de dire dans ce livre ce que je ressentais profondément.
Mais ça, vous l'écrivez à chaud ? Ce jour-là?
Bah oui, parce que je l'ai écrit le jour même,
ouais. Et alors, au moment de publier, vous le pensez toujours? C'est un,
oui, je le pense
un
toujours.
Grand président?
Je le pense. Après, il a commis des erreurs, des fautes, parfois même. Mais je pense que dans les moments essentiels, notamment les moments les plus terribles du quinquennat, on a parlé de toutes les crises tout à l'heure en introduction, il a toujours répondu présent et voulu unir et tenir les Français ensemble. Après, il aurait aimé faire baisser le chômage plus rapidement, on aurait pu se sortir de cette question des chances de nationalité plus vite, on aurait pu mieux convaincre sur la loi travail. Il y a plein de choses qui auraient pu être mieux faites. Ouais. Mais dans l'ensemble, le bilan est positif, notamment pour tout ce qui concerne l'union des Français.
Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron a de la chance. C'est vrai que, et le FMI l'a décrété d'ailleurs, la croissance mondiale va de mieux en mieux. Idem pour la croissance de la zone euro. Les prévisions de croissance pour la France sont bonnes. Donc Emmanuel Macron va bénéficier de tout cela. Est-ce que, à combien de pourcentage vous décréteriez que François Hollande a amené le pourcentage de réussite que pourra avoir Emmanuel Macron, notamment on le voit sur le CICE. Qu'est-ce que vous donnez comme on va dire de gain à François
Hollande? Je ne sais pas si c'est possible de faire du pourcentage, mais en tout cas ce que je crois, c'est je crois en la continuité de l'État. Je crois qu'on
Économiste disait 20%.
Ouais, peut-être. Non, mais ce que je pense, c'est qu'il y a ce que je pense, c'est que Nicolas Sarkozy a fait beaucoup parce qu'il a permis à la France de se maintenir à flot dans la zone euro après la crise de 2008. Et franchement, il faut lui rendre hommage. François Hollande a relancé la machine, redressé le pays. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a une autre responsabilité, c'est utiliser positivement les fruits de la croissance, puisque la croissance, maintenant, elle est là. Comme disait le François Hollande quand il était président, ça va mieux pour de vrai, là.
Peut-être encore une question sur François Hollande. Comment expliquez-vous que sur la scène internationale, il n'a jamais eu la main qui tremble? Et sur la politique française, il a toujours, on va dire, louvoyé. Comment est-ce que c'est le vicomte pourfendu comme
de Italo Calvino. Voilà, ouais, très bon bouquin.
Voilà, et c'est un peu ça, François Hollande. C'est et d'ailleurs, Puga le dit, le général Puga vous dit, vous verrez, il a la main qui tremble pas.
Non, c'est vrai. Pourtant, sur l'international, je pense que c'était lié au fait que peut-être on touche aux intérêts fondamentaux de la France, mais aussi qu'il était le seul à décider, au fond. Et donc, c'était plus facile de trancher. Alors que sur le plan intérieur, il fallait composer avec une majorité turbulente. Et il n'a pas su trouver les moyens d'imposer toujours sa volonté à cette majorité.
Peut-être aussi parce que l'image d'un président ne se fait pas dans sa politique internationale.
Peut-être aussi. D'ailleurs, je pense que quand on est président de la République, on est souvent aspiré par les affaires internationales. Je le dis à plusieurs reprises dans le livre. Le président a consacré beaucoup, beaucoup de temps, peut-être trop d'ailleurs, à son agenda international, alors que les Français l'attendaient d'abord sur la scène intérieure.
Est-ce que vous croyez que l'histoire va lui rendre raison, va reconnaître son bilan? Parce que, et vous le dites, c'est quelque chose de quasi obsessionnel chez lui, trace qu'il laissera.
Je crois que les hommes politiques sont souvent obsédés par trois choses. Un, leur élection. Deux, leur réélection. Trois, la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire. Et le troisième élément est finalement le plus important pour eux. Qu'est-ce qui restera d'eux après leur mort? Et on a tous d'ailleurs cette obsession-là. Et eux plus que tous, parce que ce sont des hommes démultipliés. Moi, je crois qu'il restera des choses très positives, notamment parce qu'il aura fait le job face à des crises internationales multiples et terribles. Après, je pense qu'on considérera aussi qu'il a tenté de faire avancer la société sur l'écologie, sur le mariage pour tous. Ce qui est très difficile de savoir, c'est qu'est-ce qu'il restera sur le plan économique et social, puisque c'est vrai que les gens retiennent peu cela. Les cycles économiques passent aussi vite que les présidents.
Alors vous dites la réélection, ils veulent tous être réélus, mais dans le cas de François Hollande, il a renoncé. Est-ce que, parce que dans le fond, et vous le dites à un moment, c'est que en quelque sorte, on a le sentiment qu'il dit ouf, enfin, est-ce que c'était vraiment une impossibilité ou un manque d'envie ou un manque peut-être de... Je sais pas.
Non, je pense qu'il s'est sacrifié. S'est sacrifié à un moment parce qu'il a senti que la gauche fonçait dans le mur à toute vitesse avec ses guerres d'ego qui se multipliaient. Donc ça, c'est la première raison. Je pense que c'est celle qui lui fait faire le déclic. La deuxième, c'est que je crois que il va y avoir une lassitude après avoir subi toutes ces épreuves, avoir tenu le choc. de devoir affronter des gens dans son propre camp, c'était trop pour lui.
Alors dans ce livre, il y a des choses graves hein, que vous relatez, dans le récit des attentats bien évidemment, mais des anecdotes aussi qui auraient in vivo fait le délice des journalistes s'ils l'avaient su. C'est la rivalité entre Valls et Macron, bon, on le savait.
On l'a deviné quand même.
On l'a deviné, non mais bien entendu, mais ce qu'on apprend c'est que le Premier ministre surnommait Macron le microbe ou le macaron, alors que vous racontez qu'au début les deux hommes s'apprécient. Selon vous, comment, pourquoi cette rivalité commence? Parce que vous pensez que Valls comprend qui est Macron?
Je pense qu'au début, ils s'entendaient très bien tous les deux. Parce qu'il y avait une proximité idéologique, presque générationnelle. Ils étaient alliés, incontestablement. C'est Manuel Valls qui propose le premier à François Hollande qu'Emmanuel Macron rentre au gouvernement en mars 2014. Après, je pense que Manuel Valls a vu l'ambition de son ministre et il a compris, peut-être avant les autres, que Emmanuel Macron visait l'Élysée dès 2017, ce qui a peut-être suscité son courroux et sa méfiance.
Quand vous parlez de Manuel Valls dans votre livre, on a l'impression que c'est un homme qui est perpétuellement en colère, toujours les mâchoires serrées, c'est l'expression qui revient, souvent le rouge aux joues. C'est ça Manuel Valls, c'est un homme en colère.
Ce qui est paradoxal, c'est que pendant les phases les plus graves, c'est-à-dire les attentats, Manuel Valls a été d'un sang-froid exemplaire. Il a été vraiment parfait, et je n'ai rien à redire dans son attitude à ce moment-là. Il a vraiment aidé le président et protégé les Français à ce moment-là. Le paradoxe, c'est que pour des situations beaucoup moins graves, qui touchent plutôt à la politique politicienne, il semblait comme pris par une colère qui le dépassait, ce qui est évidemment contrasté avec François Hollande, qui pour le coup, lui, riait de tout, surtout du petit théâtre politique qui anime Paris et la France entière.
Est-ce que Manuel Valls serait resté fidèle à François Hollande sans le livre dont on va parler, ce fameux livre, un président ne devrait pas dire ça.
Ça, je sais pas, vous me poserez la question.
Qui est une déflagration terrible.
Ah oui, ça c'est sûr.
Ça crée un passage important.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'ait pas vu venir. Je sais pas, il faudra lui demander à lui, à Manuel Valls. Il y a deux thèses qui s'opposent et moi-même, je ne sais pas. Est-ce que Manuel Valls avait décidé depuis le début, finalement, qu'il tenterait d'être candidat à la présidentielle contre le président, ou est-ce qu'il a saisi une opportunité après la publication de ce livre? Moi, je ne suis pas le porte-parole de Manuel Valls. C'est lui qui peut vous y répondre. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, les deux hommes se sont séparés à la fin de l'année 2016. Et ça, c'est dommage, puisque je pense que tant la France que la gauche y ont perdu à ce moment-là.
Alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est, dans le fond, vous qui avez connu Emmanuel Macron à l'ENA, vous avez été sur les bancs ensemble. Il vous appelle ma poule, d'ailleurs.
Oui, il appelle beaucoup de gens ma poule. Hein. Je n'ai pas du tout ce monopole.
D'accord. Ok. Donc, il est assez cool, Macron, finalement.
Après,
vous l'appelez plus ma poule maintenant.
Ah, plus du tout. Je l'appelle Monsieur le Président de façon extrêmement respectueuse et surtout, j'essaie vite de l'embêter parce qu'il a beaucoup de travail. Moi, j'ai créé une entreprise, ça me prend du temps, mais lui, il est président, donc il a un agenda bien rempli.
Qui est Emmanuel Macron?
C'est difficile de savoir qui est vraiment quelqu'un, et notamment lui, parce qu'en plus maintenant il est devenu un homme politique à part entière, donc évidemment il doit davantage camoufler, masquer ses émotions.
Oui, mais vous l'avez vu avant.
Mais moi je crois que c'est quelqu'un qui est avant tout quelqu'un d'extrêmement généreux, empathique, sympathique, qui s'intéresse aux autres, et ça c'est une grande qualité, c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu son ami. C'est aussi quelqu'un qui a une ambition et une audace exceptionnelle, qui tranche avec son époque. Et donc il mêle les deux, une audace exceptionnelle et une empathie incroyable. Il a aussi des défauts, comme tout le monde.
Il a trahi François Hollande?
En tout cas, il lui a manqué à un moment. Il a rompu avec lui.
Mais il l'a trahi. Enfin, vous employez le terme.
Oui, bien trahison, sûr. Hein. Bien sûr, je pense que c'est
vous
une vraie
trahison. Vous parlez de coups de poignard. Vous parlez d'une immense déception pour vous qui.
C'est un moment
qui ne vous quittera jamais, dites-vous.
Oui, c'est un moment extrêmement dur. Pour nous tous, parce qu'en fait, c'est de l'ordre presque de la rupture politique, bien sûr, mais aussi la rupture affective.
Du parricide?
Oui, après, j'évite d'utiliser ce genre de termes qui sont quand même disproportionnés, mais en tout cas, ça a été très dur, et sur le moment, moi, je lui en ai voulu beaucoup personnellement. Après, ex post, comme on dit, a posteriori, j'ai compris pourquoi il l'avait fait, et surtout, ça nous a permis d'éviter que le Front National l'emporte. Finalement, c'était pas si mal.
Est-ce que, comme dans les tragédies grecques ou même romaines, plutôt, est-ce qu'il faut tuer le père? Est-ce qu'il faut tuer en politique pour réussir? Est-ce que c'est le passage obligé? Vous qui connaissez à la fois le pouvoir de près.
J'aimerais vous répondre non. Après, souvent en pratique, malheureusement, c'est le cas.
On a l'impression que Chirac et Sarkozy,
Giscard, etc. Ouais. Non, c'est vrai que c'est souvent le cas. Moi, après, il y a des quelques personnes qui arrivent à organiser positivement leur remplacement ou leur succession. Et moi, vous savez, j'ai une admiration sans limite pour Bertrand Delanoë, pour lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et lui, il avait préparé sa succession, il avait annoncé qu'il partirait en 2014, et il a transmis les rênes à Anne Hidalgo, qui a été élue en 2014, mais après, avec un terrain bien préparé par Bertrand Delanoë.
François Hollande a été très largement mis en garde sur la montée et les ambitions d'Emmanuel Macron. Même Nicolas Sarkozy l'avait mis en garde. Hein. Est-ce que vous pensez qu'au fond, François Hollande n'a pas vu venir Emmanuel Macron ou il n'a pas voulu le voir venir ?
Je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que pour François Hollande, comme pour beaucoup de gens, c'était impossible qu'Emmanuel Macron puisse être candidat et encore moins président. Trop jeune, jamais élu, n'avait jamais cultivé un territoire, une circonscription. Et pour toute cette génération politique qui avait construit sa légitimité en sillonnant les territoires année après année, c'était improbable, impossible. Il a prouvé que c'était possible. Pourquoi ? Parce que l'époque a changé et que les Français avaient à ce moment-là un profond besoin de renouvellement, voire même de rajeunissement, et qu'il a réussi à l'incarner.
Et aussi parce qu'il y a eu un contexte très particulier avec les affaires Fillon, avec Marine Le Pen.
Mais tous les contextes sont particuliers, en fait.
Oui, celui-là, plus que d'autres.
Oui, enfin, moi, je trouve qu'en 2012, c'était pas mal aussi, le côté rocambolesque, Dominique Strauss-Kahn, les suites, etc. Il y a toujours quelque chose... Bon, après, cette élection était peut-être l'élection la plus folle de toutes, mais je crois qu'Emmanuel Macron a su, par son audace et sa perception du besoin de renouvellement, saisir l'occasion. Et je crois qu'il y a une page de la vie politique qui s'est tournée à cette occasion, hein, je le crois vraiment. C'est pas simplement une question d'âge ou de génération.
Non, ce fameux ni droite ni gauche. Avant, on vivait sur cette guerre de religion, la gauche, la droite, et Macron nous a fait du en même temps.
Alors après, on voit aussi que le en même temps conduit actuellement beaucoup sur la droite. On va voir si à un moment il conduit beaucoup sur la gauche. Je crois que les idées ne sont pas mortes, les convictions ne sont pas mortes. Moi, personnellement, je me sens et me ressens encore de gauche, totalement.
Il a dépolitisé la vie politique, Macron ?
En tout cas, il l'a pragmatisé. Enfin, c'est très mal dit, c'est pas français ce que je viens de dire, mais il a essayé de le faire en pensant qu'on pouvait construire des majorités d'idées. On a essayé de le faire. Moi, je crois que ça peut exister au niveau national sur certains sujets.
Mais
ça
après 58, il y a eu cette dépolitisation.
Oui, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on retrouve le clivage. La fiscalité, on retrouve le clivage. Ouais. L'écologie, on retrouve le clivage. L'éducation, on retrouve le clivage. Ce sont des sujets nationaux. Après, moi, je crois que devant nous, on va avoir des élections européennes, des élections municipales. Et là, on verra aussi qu'il est possible de construire des majorités d'idées et qu'on retrouvera pas les partis traditionnels. Ça, je crois que les choses se passeront différemment et que les partis politiques doivent se reconstruire s'ils veulent pouvoir peser dans l'avenir.
On vous a proposé, vous avez envisagé brièvement d'être député sur les listes de La République En Marche, en Bretagne en l'occurrence. Finalement, vous ne l'avez pas fait. Est-ce que c'est uniquement parce que vous n'avez pas d'ancrage local et que donc vous ne vous sentiez pas légitime, ou est-ce que c'est aussi parce que il y avait quand même encore cette déception de cette trahison et que ça aurait été finalement rejoindre le traître ?
Ça serait à mon avantage de vous répondre oui, mais malheureusement non. Je pense que les deux raisons qui m'ont conduit à refuser, c'est un, que c'était pas le bon endroit, et deux, que c'était pas le bon moment. Pas le bon moment parce que j'avais d'autres projets, qu'il fallait certainement que je prenne du recul. Moi, je crois qu'on peut avoir plusieurs vies, que moi, je voulais devenir entrepreneur à ce moment-là. J'ai été tenté de le faire et j'ai tenté d'être candidat et j'ai eu raison de ne pas l'être à ce moment-là parce qu'il fallait que je crée une entreprise. Et la deuxième chose, c'est que c'était pas du tout le bon endroit. J'adore la Bretagne, j'ai passé beaucoup de vacances, mais je n'ai aucune attache ni personnelle, ni familiale, ni professionnelle à Rennes. Mes attaches, elles sont quasiment entièrement à Paris. C'est la ville auquel je suis né, j'ai travaillé pour cette ville. Donc, voilà.
Et pour finir, votre plus beau moment à l'Élysée et votre pire souvenir à l'Élysée ?
Le pire, c'est le soir du 13 novembre 2015. Oui. C'était absolument épouvantable. Qu'on pense à toutes ces victimes et tous ces moments douloureux qu'on a vécu. J'aurais pu y être, hein, parce que moi, je passais ma vie à sortir au petit Cambodge, à la belle équipe et au Bataclan. Donc, évidemment, c'était terrible et je pense à toutes ces victimes. Et le meilleur, c'est le 11 janvier 2015, le jour de cette grande marche dans les rues de Paris pour défendre la liberté d'expression, défendre Charlie Hebdo, défendre les victimes de l'hypercachère, la tolérance et les valeurs universelles de la France.
Oui.
C'était un moment vraiment où j'ai senti des frissons parcourir l'ensemble de mon corps, dans un quartier en plus dans lequel j'avais longtemps vécu, qui était le 11e arrondissement.
On n'a pas évoqué l'affaire du joint, le jour où vous arrivez à l'Élysée comme conseiller, et publié sur Facebook, enfin, on vous appelle en disant, t'as oublié une photo sur Facebook, on vous voit en train de fumer un pétard.
Bah,
vous avez cru que vous n'alliez rester que quelques heures.
Ah ben, franchement, je me suis dit, je vais prendre la porte immédiatement. C'était un énorme couac de communication, mais finalement, maintenant, je préfère en rire, parce que celui qui n'a jamais fumé un joint me jette la première pierre.
La première boulette. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve tout de suite après.
On rappelle le livre, peut-être, le titre du livre, La politique est un sport de combat, chez Fayard.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité, Boris Vallaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes député Nouvelle Gauche des Landes, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée avec François Hollande. Donc Emmanuel Macron a lancé aujourd'hui son plan d'action en faveur des banlieues, alors rénovation urbaine, renforcement des services publics, lutte contre les discriminations à l'embauche, emplois francs. C'est quoi des emplois francs? Ce sont les entreprises qui embauchent des jeunes issus de quartiers populaires. Eh bien, ces entreprises recevront des primes, 15 000 euros pour un CDI et 5 000 euros pour un CDD. Donc, on est d'accord, ce n'est pas la première fois qu'il y a des plans banlieues. Il y en a eu... Je ne sais pas combien d'ailleurs, peut-être si vous l'avez en tête, moi je ne sais pas. Je n'ai pas compté, en tout cas beaucoup. Est-ce que celui-ci vous paraît plus efficace qu'un autre?
Écoutez, il y a tous les mots attendus.
Les mots.
Les intentions. Ensuite, s'agissant...
On aurait pu dire les mots MAUX aussi.
Oui, les mots, malheureusement, MAUX, ils perdurent, ils se cultivent, ils s'additionnent. Et ça, c'est une vraie difficulté. Le discours pouvait-il en tenir un autre? Je ne crois pas. Mais vous savez, le propre de ce gouvernement et de ce président de la République, c'est de prétendre que c'est toujours la plus grande réforme qu'ils font de toute la Ve République. C'est-à-dire que, grosso modo, entre René Coty et Emmanuel Macron, il n'y a pas eu grand-chose. Ça manque parfois un petit peu de modestie, même si c'est des sujets sur lesquels on doit se mobiliser collectivement, parce que la situation est préoccupante. Après, moi, je vois des mots, et puis je vois des actes. Et parmi les actes, il y a, dès 2017, une réduction des crédits politiques de la ville qui ont mis un certain nombre d'associations qui œuvrent dans ces quartiers en difficulté. J'ai vu aussi une réduction drastique des contrats aidés qui bénéficiaient à des associations, à des habitants de ces quartiers-là. Donc voilà, il y a toujours, le discours théorique qui peut séduire et puis la réalité pratique qui est souvent décevante.
Mais est-ce que vous ne pouvez pas mettre au crédit d'Emmanuel Macron, même si éventuellement vous n'êtes pas d'accord sur le fond, mais que sur la forme il va très vite, qu'il agit rapidement et que cette réforme-là, enfin ces réformes, oui, ces mesures pourraient être mises en œuvre rapidement. D'ailleurs, il dit qu'il y aura des réunions tous les 3 mois pour évaluer l'avancée des dispositifs.
Oui, mais ça, je pense que si vous faites l'archéologie des plans en faveur de la ville, on a intitulé plan Marshall de temps en temps, vous aurez ce même type d'annonce, d'exigence. Moi, je souhaite que ça réussisse, que ça fonctionne, que la question notamment de la mixité sociale dans l'habitat soit véritablement portée dans l'éducation. Où est-ce qu'on en est, par exemple, des expérimentations de mixité sociale en matière éducative? Je n'en ai pas entendu parler. En réalité, vous dites sur la forme, il est très habile.
Non, j'ai pas dit qu'il était habile, j'ai dit qu'il allait vite.
Il va vite. Est-ce que la vitesse est un gage de justice et d'efficacité?
Non, mais ce que
pas,
veut dire...
pas toujours.
Non,
entre le moment où vous annoncez une réforme et le moment où elle se met en place, il s'est généralement écoulé un temps considérable. Là, depuis qu'il est à l'Élysée, on voit qu'entre le moment où il annonce une réforme et le moment où elle est en œuvre, le temps s'est raccourci. C'est de ça que je parle.
Le temps s'est raccourci et au prix d'un escamotage du débat
Alors voilà, ça c'est une autre question. Vous pensez qu'aujourd'hui, le Parlement n'est pas respecté
dire,
en quelque sorte?
Je peux vous dire que... Pas que le Parlement, j'ai même le sentiment que à l'intérieur du parti majoritaire, la question de la possibilité de débattre, de dialoguer, d'émettre des positions dissidentes...
Faites allusion à la mini-fronde.
Est posée, oui, absolument.
Une centaine...
Moi, ce dont je peux être le témoin, c'est que à l'Assemblée nationale, bien souvent, la majorité a choisi d'être l'opposition de son opposition, et de lui dire systématiquement, ou très souvent, non. Il m'arrive... pour ceux qui aient des textes que je suis, de déposer plusieurs dizaines d'amendements qui ne prospèrent jamais. Mmh. Et quand bien même, ils portent sur des points qui pourraient faire l'unanimité. J'ai évoqué la question des emplois aidés. Parmi les emplois aidés, il y a ceux en faveur des entreprises adaptées, c'est-à-dire des personnes qui sont en situation de handicap. La République En Marche s'est trouvée très isolée. Même le MoDem rejoignait les autres groupes pour soutenir ces emplois. Mmh. Une forme d'indifférence. Rien n'ébranle cette majorité. Elle n'est jamais traversée par le doute. Elle est dans une forme de certitude, de positivisme, qui fait qu'en réalité, le débat Je trouve qu'il y a une attrition du débat démocratique, du dialogue social.
Oui, mais ça, est-ce que vous pouvez le reprocher aujourd'hui à Emmanuel Macron à En Marche?
Je crois qu'on est à un moment.
C'est issu d'une élection. Enfin,
je crois qu'on est à un moment
d'opposition. C'est pas de sa faute.
Où nous ne pouvons pas oublier les uns et les autres que plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes pour élire les députés. Il y a même des circonscriptions où il y a eu moins de 30% de participation. Non, mais je veux dire, on est dans un moment où la question de la confiance dans les représentants est posée, avec une force et avec une acuité que je crois inédite, et en tout cas exacerbée par rapport à ce qu'on a pu connaître. Je crois que ça oblige, évidemment, à l'efficacité, qui peut rejoindre la question de la rapidité d'exécution des réformes, mais pose aussi la question de savoir comment on fait adhérer à ces projets de réformes, qui parfois peuvent être importants, nécessaires, et les citoyens, et les partenaires sociaux, et les corps intermédiaires, et aussi les parlementaires et l'opposition.
Alors, pour en revenir sur les réformes, on le sait, tous les présidents de la République le savent, les réformes doivent se faire au début du quinquennat, sinon elles ne se font jamais. C'est le constat de tout un chacun. Emmanuel Macron les fait au pas de charge. Est-ce que vous ne regrettez pas que François Hollande n'ait pas fait, par exemple, au début de son quinquennat, il a attendu quand même 2 ans à faire ce fameux tournant libéral, où certains économistes disaient dans le fond la direction est la bonne, mais c'était pas assumé au plus haut sommet de l'État.
Je vais vous dire, je crois que les 100 derniers jours sont aussi importants que les 100 premiers. Le président de la République, il n'est pas élu pour 100 jours. Ouais. Et la question qui se pose, c'est comment on peut continuer à réformer jusqu'au terme du quinquennat. Et je crois qu'une partie de la réponse est de savoir comment aujourd'hui, dans un pays fracturé, dans un pays qui doute de ses représentants, on est capable de conduire des grandes réformes structurelles en suscitant de l'adhésion. Ça nécessite du débat. La démocratie, bah oui, c'est exigeant, ça demande du temps.
Ouais.
Mais ça me paraît très nécessaire et je ne crois pas qu'on ait fait beaucoup mieux pour susciter l'adhésion, c'est-à-dire créer du commun, créer des raisons de vivre ensemble.
Mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu à ma question.
Mais écoutez, je crois que les questions que vous posez, j'y réponds en disant, si nous sommes effectivement bloqués dans un calendrier où il faut faire toutes les réformes dans les 100 premiers jours, c'est que nous avons un système institutionnel qui ne fonctionne pas bien.
D'accord, donc la faute aux institutions. D'accord.
Bah, je crois qu'à un moment donné, il faut se poser la question de l'efficacité de nos institutions.
On se les pose à chaque fois et rien ne change.
Alors Emmanuel Macron se voit reprocher régulièrement d'être le président des riches et certains se demandent si cette séquence-là, plan banlieue, n'est pas faite justement pour témoigner de l'intérêt pour les plus défavorisés. Et il a répondu aujourd'hui, il s'est exprimé sur cette critique, ce reproche qui lui est régulièrement fait. On va l'écouter.
Qu'est-ce que ça veut dire, moi, avoir une politique pour les riches ? Je sais simplement que quand il n'y a pas une économie qui tire tout le pays en avant, quand il n'y a pas des entrepreneurs qui réussissent, quand il n'y a pas des gens qui réinvestissent dans l'économie, les quartiers les plus en difficulté ne se portent pas bien.
Alors ça, c'est la théorie du premier de cordée qu'il avait développée récemment, qui se distinguerait selon lui de la théorie du ruissellement. Vous y croyez
Moi, je trouve qu'il y a une conception de la cordée qui est très élastique.
Voyez, c'est dangereux, une cordée élastique.
Il y a ceux qui montent, et puis ceux qui restent en bas. Oui. Voilà la réalité. Alors, le reproche qu'on fait au président de la République, c'est dans l'ordre des préoccupations. Est-ce qu'il se préoccupe d'abord de ceux qui souffrent, ou de ceux qui sont les gagnants de la mondialisation? Certains, même des premiers de cordée, ont coupé la corde. Ils sont allés faire de l'optimisation fiscale ailleurs. On a quand même un sujet qui est posé. Est-ce qu'il y a des contreparties à la suppression de l'ISF et à l'instauration de la flat tax? Vous vous rendez compte que pour un certain nombre de ces contribuables, on va leur rendre plus d'argent que ce qu'ils payaient en ISF. Est-ce que vous pensez qu'ils vont investir dans
les
banlieues?
Mais est-ce que c'est pas c'est comme le pari du CICE, du Crédit Impôt Compétitivité Emploi. C'était ces baisses.
Est-ce qu'on l'a réservé aux 10% riches? Est-ce qu'on l'a réservé, c'était intuitu personnel, aux 10% les plus riches?
Non, bien évidemment.
Vous savez.
Non, mais
je vous donne un exemple.
C'est pas comparable. Mais
on se dit,
le pari est le même.
Allons au bout. Mais moi, je suis pas seul pour faire des paris. Je suis aussi pour que les gens soient comptables de ce qu'ils font. Et il y avait des mécanismes qui permettaient d'investir une partie des fortunes dans les PME. Ça s'appelait ISF PME. C'était 500 millions d'euros chaque année pour les PME. Aujourd'hui, les PME s'inquiètent de la disparition de ce dispositif. Parce que vous savez, quand vous investissez, vous achetez une action. Et bien quelqu'un qui la vend. Il n'y a pas systématiquement des augmentations de capital. Est-ce que nécessairement ils vont investir dans les entreprises françaises? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont investir dans l'outil productif? C'est-à-dire dans les machines, dans les usines du futur? Je ne le crois pas. Il y avait un dispositif pour ça qui a été supprimé, qui s'appelait le suramortissement. Donc voilà, je veux dire, la politique économique, ça n'est pas qu'une politique financière, c'est aussi une politique industrielle. Et là, de politique industrielle, moi, je n'en vois pas. Or, c'est ce qui nous permettra de sortir de cette situation qui est extrêmement inconfortable de déficit commercial. Oui. Parce que ça veut dire qu'on vit à crédit sur l'étranger, qu'à un moment donné, notre mode de vie est mis en cause. C'est là qu'il faut mettre le paquet. C'est là qu'il faut mettre le paquet. En travaillant sur, par exemple, la question de la conditionnalité d'un certain nombre d'aides, on peut la poser. Est-ce qu'on peut, par exemple, réserver un certain nombre de dispositifs aux entreprises exposées à la concurrence internationale ? On peut le faire. On peut le faire. Il y a des pays comme l'Allemagne ou la Belgique qui réservent un certain nombre de baisses de charges aux entreprises qui sont en 3-8. Les entreprises en 3-8 sont essentiellement des entreprises industrielles. Vous voyez, il n'est pas interdit aussi de se poser ce genre de questions. Alors, est-ce que le fait d'aller dans les banlieues, ça fait du président Macron le président des pauvres ? Sincèrement, je ne le crois pas. Vous savez, on a souvent parlé de greenwashing. Bon, ben là, on a du social washing. Mais il ne faut pas tromper les gens. Quand on gratte, ben, il reste quand même cela. C'est-à-dire que les promesses tenues, c'est d'abord pour les premiers de cordée. Et puis, pour les derniers de cordée, vous savez, ça s'étale sur 3 ans. C'est moins ou ça se fait jamais, parce qu'il y a des promesses aussi qui ne sont pas tenues pour les plus modestes.
Quand François Hollande subissait les assauts des frondeurs, vous êtes d'ailleurs proche d'un des leurs, hein, qui était Arnaud Montebourg.
Il n'était pas un frondeur, je le qualifierais pas comme ça. Il y a eu des désaccords politiques.
D'accord. Ouais.
Mais je crois pas lui-même qu'il se soit jamais qualifié de cette manière. Il avait des désaccords politiques et il les faisait valoir sur la stratégie
économique. Oui, qu'il exprimait par moments haut et fort.
Donc justement,
bien sûr,
ces désaccords,
c'est pas quelqu'un qui avait le caractère à se faire.
Mais vous étiez, entre, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises alors. Entre François Hollande,
ça a pu m'arriver. Ça a pu m'arriver, en effet. Et c'est pas la situation la plus confortable.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que...
Eh bien, vous savez, quand on est conseiller, on est conseiller. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les décisions et on n'en assume pas la responsabilité parce qu'on les a pas prises. Mais moi, que ce soit dans le huis clos du bureau d'Arnaud Montebourg, dans le huis clos du bureau de François Hollande, j'ai toujours eu le droit de dire exactement ce que je pensais. J'ai eu des accords, j'ai eu des désaccords.
Qui vous écoutait?
Écoutez, ça dépendait des fois. Il m'est arrivé de gagner des arbitrages, il m'est aussi arrivé d'en perdre.
D'accord.
Est-ce qu'Arnaud Montebourg, aujourd'hui, manque à la politique ?
Écoutez, ce que je crois, c'est que quand il y a eu des voix fortes qui se sont exprimées en politique, le fait qu'ils soient en retrait n'éteint pas ce qu'ils ont dit. Il a dit un certain nombre de choses avec force, et je crois que ça continue de résonner. C'est vrai de beaucoup de gens qui sont en retrait de la politique.
Mais enfin, il n'y a pas de montebourgisme, ça n'existait pas encore, ça.
Vous savez, moi, j'essaie d'être valodiste, ce qui est déjà, bien sûr, un travail quotidien extrêmement important.
Alors justement, figurez-vous que votre ami, qui était là sur ce plateau il y a quelques instants avant vous, Gaspard Ganzer, qui vient d'écrire un livre, quand on l'a croisé, on lui dit, bon, dans le fond, qu'est-ce qu'on a lui posé ? C'est quoi la question à 1000 points à poser à Boris Vallaud ? Et il répond, ce serait qu'il se présente, qu'il soit candidat en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc évidemment, vous allez nous faire une immense langue de bois en disant que ça ne vous intéresse pas, que vous n'êtes pas prêt et que vous n'êtes pas l'homme de la situation, n'est-ce pas ?
Ah bah écoutez, vous êtes parfaite en matière d'éléments de langage.
Non, c'est pour que vous me disiez le contraire.
Mais j'aimerais vous faire plaisir, mais je ne vous ferai pas plaisir aujourd'hui. Non, non.
Non, mais alors, je peux préciser que Gaspard Ganzer a dit « Moi, je pense qu'il doit l'être ». Lui
oui,
pense
ça,
que vous devez.
Je crois les radicaux qui, à un moment donné, n'étaient candidats à rien, mais disaient que sur l'aimable insistance de leurs amis, finalement, ils cédaient à la tentation. Je suis pas là.
Voilà. Et pourtant, un article du Monde dit Boris Vallaud, médecin du PS malgré lui.
Non, non, mais moi je suis médecin, rien du tout. Et puis vous savez, il y a des équipes chirurgicales, donc on est rarement seul pour opérer. Donc moi, je crois qu'il y a un travail considérable de refondation à faire. Je souhaite y participer avec tout mon enthousiasme et mon énergie, mais c'est pas une aventure solitaire.
Ouais. Il dit de vous, Gaspard Ganzer, on sent chez Boris Vallaud un feu, une volonté d'en découdre, une colère dans la défense de ses idées que je n'avais jamais perçue. Quelque chose s'est révélé en lui. Qu'est-ce qui s'est révélé en vous et à quelle occasion ?
Écoutez, c'est la première fois depuis toujours que je parle en mon nom d'une certaine manière. Même si je parle aussi au nom du groupe dont je suis le porte-parole et puis au nom d'une famille politique qui est la famille socialiste. Mais j'étais tenu à un devoir de réserve. J'ai pas envie d'en découdre. J'ai juste envie qu'un certain nombre de valeurs...
Vous avez accumulé du coup un peu de colère pour dire les choses.
De colère et de ressentiment.
Frustration peut-être.
J'allais dire que mes idéaux sont intacts. Voilà. C'est surtout ça. Et je veux le dire avec force, parce que je crois à la justice, je crois à l'égalité. Moi, je mets pas le mérite et l'égalité dos à dos. Je me résous pas à un pays coupé en deux, entre les gagnants de la mondialisation et les perdants. Je me résous pas à ce qu'il y en ait qui soient dans des mini-jobs. Je ne me résous pas à ce que la moitié des Français n'aillent plus aux urnes. Voilà, moi, ma révolte.
Alors, vous dites que pour l'instant, vous n'avez pas le poste de premier secrétaire en ligne de mire, mais que, je crois que je vous ai entendu dire, en revanche, je vais apporter ma brique à la reconstruction du Parti Socialiste. Et votre brique, alors, elle est comment? Elle est de quelle couleur? Elle est de quelle forme? Vous la placez où? Vous savez, sur le bâtiment?
Les briques, ça suppose de se... D'abord, vous savez, quand on est dans l'opposition, on se demande la façon d'être dans l'opposition. On y rentre par une défaite cinglante dans cette opposition. On y rentre dans une situation singulière. Ce n'est pas une alternance classique, c'est une forme de remplacement. Et puis, ça n'est pas que la défaite d'un parti. Ça semble être bien plus grave que ça. La disqualification d'une offre politique, qui est celle de la social-démocratie, et malheureusement, nous rejoignons en cela la situation de beaucoup d'autres pays européens.
Oui.
Donc, la question, c'est faire l'analyse de notre défaite, être capable de livrer une lecture du monde, de livrer une lecture de ce qu'est l'offre politique d'En Marche, qui est une offre libérale. Hein. C'est pas l'aspiration, c'est pas construire le meilleur des mondes pour tous, mais le monde des meilleurs, c'est-à-dire de quelques-uns. Il y a une forme à la fois de darwinisme et de malthusianisme dans l'offre d'En Marche. Hein. Avec l'idée qu'il y a des destins de gagnants, mais il y a aussi des destins de perdants, et que ceux-là, ils doivent bien mériter quand même un peu le sort dans lequel ils sont.
Mais justement,
pour répondre à votre question, il y a quelques grands sujets. Il y a la question des mutations du travail. Ce que nous avons à gérer, à affronter peut-être dans les années à venir est considérable.
La disparition du travail ?
C'est pas la disparition du travail, c'est 50% des emplois tels qu'ils sont aujourd'hui qui seront télescopés par le numérique. Ce qui pose la question de savoir comment on devient une société apprenante, c'est-à-dire une société qui n'a jamais, d'une certaine manière, ne quitte l'école. Une société dans laquelle on gère ce qui est le trait commun de cette société, de ce monde moderne, qui est l'incertitude. Comment l'individu n'est pas fragilisé face à cette incertitude. Donc comment on gère les transitions professionnelles. Ça, c'est des sujets majeurs et qui impliquent qu'on ait un modèle économique qui soit capable de répondre et d'affronter ces grandes mutations qui vont télescoper le travail, qui vont télescoper la question de la valeur de la richesse, de sa fiscalité vraisemblablement. Il y a ça. On parlait de la place du Parlement tout à l'heure. Il y a des réformes institutionnelles à venir où là aussi on aura des choses. Parce que je trouve qu'on est un Parlement faible.
Oui.
Une grande démocratie.
Est-ce que votre plus grande difficulté, au-delà de ces grandes réflexions, ne va pas être de renouer le lien avec les classes populaires que vous avez abandonnées et délibérément abandonnées? Ça a été théorisé même.
Alors, ça a été théorisé par ceux qui, j'allais dire, en masse, ont rejoint les rangs d'En Marche aujourd'hui. Je vois ce à quoi vous faites allusion. Absolument. Moi, je vais vous dire, si le Parti Socialiste n'avait perdu contact qu'avec les classes populaires, ce serait déjà pas mal. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il a perdu contact à peu près avec tout le monde. Et que ce que nous devons avoir comme obstination politique, c'est de réduire les inégalités qui fracturent le pays. Et c'est une fracture qui est aussi bien sociale que politique. Et c'est extrêmement grave, parce que la question qui est posée fondamentalement dans ce pays, c'est est-ce que les gens ont encore envie de vivre ensemble? Voilà. Et donc, oui, il faut aller se préoccuper d'abord des classes populaires. Voilà. Être d'une certaine manière aussi le parti des plus pauvres, de ceux à qui la voix n'est jamais donnée.
Vous savez, Mélenchon, vous avez pris un peu
l'option. Oui, mais nous, on est pour la réconciliation. Vous voyez, on ne choisit pas un camp comme contre un autre. On se dit, il faut qu'il y ait une réconciliation. On ne veut pas d'un pays fracturé. On ne veut pas d'un pays contre un autre.
Alors, vous, lorsque vous étiez conseiller de l'ombre, eh bien, votre femme, Najat Vallaud-Belkacem, était dans la lumière. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Elle se montre plus, elle ne parle plus beaucoup. Ça fait penser un peu à un moment à l'inversion qui s'est passée chez François Hollande et Ségolène Royal. Ségolène Royal était à briller pendant un moment, puis ça a été le tour de François Hollande. Est-ce que le couple Vallaud-Belkacem fonctionne comme ça? Est-ce que c'est chacun votre tour?
Vraiment, on s'est pas du tout posé la question. C'est bien, parce
vous n'avez jamais fait l'analogie.
On aurait pu être. Non, on l'a fait pour nous, donc on fait pas penser. Mais nous, on se pose pas du tout la question dans ces termes. On est un couple, voilà, avec des enfants, avec je ne rentre pas dans notre vie qui est personnelle. Et puis, elle est une femme politique. Je suis désormais aussi un homme politique de la même famille politique, ce qui arrange quand même plutôt les choses.
Avec pas forcément la même sensibilité.
C'est pas toujours le cas. Je crois qu'on est assez proches sur le plan politique. Je crois qu'on est.
Elle va revenir.
C'est vraisemblable qu'elle reviendra. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, elle continue de réfléchir, de travailler, de beaucoup lire, de
rencontrer. Vous espérez qu'elle joue un rôle aussi de premier ordre dans la reconstruction?
Je ne sais pas de quelle manière elle occupera sa place dans cette refondation, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'elle occupera une place. Voilà.
Merci en tout cas, merci Boris Vallot, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Frédéric Rivière. Merci. Et puis merci à donc Charlotte Urien-Tomaca et Camille Nérand d'avoir préparé cette émission, et à toute l'équipe technique.